Nous voulons commencer l'année par des pistes positives pour vivre cette période incertaine entre les variants Delta et Omicron qui se télescopent, les incertitudes liées à la situation économique, les élections présidentielles dont le résultat fluctue au fil des sondages. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter et de nombreuses personnes vivent dans l'angoisse. Comment alors gérer cette situation, ne pas se laisser envahir par ce climat anxiogène? C'est à un psychologue que nous posons ces questions ce matin. Bonjour Bernard Coulot.
Bonjour Isabelle.
Je précise Bernard Coulot que vous êtes psychologue à Saint-Sulpice, la Pointe dans le Tarn. Vous êtes venu de loin ce matin, merci. Et expert judiciaire. Avant de détailler comment gérer cette crise d'angoisse, enfin une crise d'angoisse, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire la distinction entre ce qui relève de l'angoisse et ce qui relève de l'anxiété ou du stress, pour qu'on soit bien sûr de
oui.
ce dont on parle?
Oui, souvent ce sont des mots anxiété, stress, angoisse que l'on amalgame. Or, je crois que on peut quand même distinguer des vécus, des ressentis, des positionnements différents chez l'être humain. Quand on parle d'anxiété, et là, face à cette crise sanitaire, ce Covid-19 qui nous est tombé dessus de manière plutôt imprévisible, moi, ça me paraît logique que l'humain, vous, moi, nous en soyons affectés et que notre équilibre psychique en soit troublé. Donc qu'il y ait une anxiété réactionnelle liée à ce virus qui nous est tombé dessus, que pour ma part je n'imaginais pas sauf dans des romans de science-fiction.
Je pense que vous n'êtes pas le seul.
Oui, c'est ça. Je pense que le commun des mortels, peut-être quelques chercheurs avaient anticipé, mais le commun des mortels, non. Et du coup, on a vraiment vécu un temps peut-être proche de la sidération au début, quand en plus on nous a dit il faut plus travailler, il faut rester chez soi, plus d'école, etc., etc. Vraiment, il y a eu un temps, un impact fort, je crois, proche de la sidération, et ça a généré de l'anxiété qui, à mon sens, est légitime. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand cette anxiété, peut-être, s'est surajoutée à une anxiété de fond chez certains êtres humains qui, de par leur histoire, ont un fond d'anxiété un peu constant. Et il est clair que là, cette Covid-19 est venue rajouter de l'anxiété et parfois de l'angoisse. Alors la distinction que l'on peut faire entre l'anxiété et l'angoisse, pour moi l'anxiété c'est un malaise interne, un malaise lié à des appréhensions, à des craintes, mais je sais à quoi je le rattache. Et là notamment ce virus, cette crise, tout ce que ça a bougé dans notre quotidien. Par contre l'angoisse c'est un malaise profond qui souvent ne peut être nommé, ne peut être rattaché à un élément réel et qui, la plupart du temps, est associé aussi à des troubles somatiques, parfois des palpitations cardiaques ou des troubles respiratoires et parfois proches d'un état de panique. Donc c'est vraiment quand même deux vécus, deux ressentis psychiques différents, l'anxiété et l'angoisse.
Alors vous dites que cette situation est quand même normale d'une certaine manière, en tout cas cette situation d'anxiété. Et effectivement, quand on regarde les chiffres qui sont recueillis par Santé publique France de façon assez régulière, 23% des adultes déclarent des signes d'anxiété, c'est quand même 10 points de plus qu'au début de la crise, avant la crise. Et 63% des Français déclarent des problèmes de sommeil. Et là, on est quand même à 14 points de plus qu'avant la crise sanitaire. Est-ce que dans les personnes qui viennent consulter dans votre cabinet, vous sentez des angoisses différentes, qu'est-ce qui les inquiète vraiment?
Alors, je pense que ce qui a été troublant et inquiétant, c'est le sentiment de perdre un peu le contrôle de mon quotidien, de ma vie, de mon équilibre habituel. Cette pandémie, ce virus, est venu déstabiliser notre équilibre quotidien, notre équilibre psychique, rajouter de l'inquiétude, des peurs. Et puis il faut dire aussi que en mars, avril, mai 2020, je me rappelle, pour ma part, je ne pouvais pas travailler comme avant. Je me suis retrouvé souvent devant la télévision et il est clair que le décompte quotidien, voire heure par heure, du nombre de décès en France, en Italie, au Brésil, aux États-Unis, c'était quand même très très fort et on a tous traversé une période réellement d'inquiétude, de peur pour soi-même, pourvu que j'attrape pas ce machin, et pourvu que les personnes que j'aime ne soient pas elles aussi infectées par ce virus. Donc ça a généré ces peurs-là, ça c'est évident.
Vous me disiez en préparant cet entretien que les enfants, vous aviez reçu davantage d'enfants dans votre cabinet.
Oui, disons que je reçois des enfants régulièrement, c'est quand même le job quotidien, le fond de commerce, je dirais, des psychologues. Mais ce que j'ai davantage entendu dans les propos des enfants, c'est des inquiétudes autour de la mort. Alors, les enfants de 5, 6, 7 ans, ça fait partie du chemin pour grandir, d'admettre que la vie n'est pas éternelle et que la mort vient
fait partie
de la vie. Et ça ça fait partie de mûrir, grandir pour un enfant. Mais ce que j'ai entendu quand même dans leurs propos depuis 2 ans, c'est plus d'inquiétude, plus d'anxiété, la peur que notamment pas tellement pour eux, mais pourvu que maman, papa, papy, mamie ne meurent pas de cette Covid-19. Et ça, ça a généré beaucoup d'anxiété et beaucoup d'angoisse pour certains d'entre eux, ça c'est sûr.
Alors, puisque nous parlons des enfants, peut-être que vous pourriez nous donner des clés pour aider, si on a un enfant dans une situation de stress ou d'angoisse, d'anxiété face à cette crise sanitaire, comment les parents peuvent les rassurer?
Alors les enfants, ce que je crois, il y a un peu, si je généralise, deux types de réactions, deux types peut-être de profils d'enfants. Il y a des enfants qui spontanément peuvent en parler à papa, maman ou la maîtresse ou le psychologue, etc., qui spontanément verbalisent leur ressenti, leur crainte, leur peur, la mort, comment ça se fait, pourvu que ça tombe pas sur les personnes que j'aime. Donc certains peuvent verbaliser comme ça. Je crois qu'il faut les entendre, il faut écouter, prendre le temps d'écouter, de les écouter, plutôt que de leur proposer nos propres réflexions. Les écouter d'abord. Prendre le temps de les écouter. Et sûrement, quand ils parlent comme ça spontanément, accompagner leurs réflexions, peut-être formuler des réponses à leurs inquiétudes ou à leurs angoisses. Mais je crois que quand ils parlent spontanément, il faut sûrement parvenir à les écouter.
Et s'ils ne disent rien ?
Alors s'ils ne disent rien, c'est que peut-être ils ont des peurs qui sont telles qu'ils n'arrivent pas à en parler, ou bien qu'ils sentent tellement d'angoisse chez maman et chez papa ou chez les adultes qu'ils ont peur d'en rajouter finalement avec leurs propres préoccupations, leurs propres angoisses. Alors du coup, certains ne parlent pas. Et puis il y en a aussi des enfants qui ne sont pas trop dans l'extériorisation et dans la verbalisation. Du coup, je crois que là, il faut que nous soyons davantage à l'observation, les observer, les voir. Peut-être, quand on est parent, on les connaît bien, puisque c'est nous qui les avons fait, repérer des signes en deçà de la non-verbalisation, des signes qui nous indiquent qu'il y a quand même une inquiétude, un malaise. Et à ce moment-là, on peut très bien leur dire, dis donc, mon chéri, comment toi tu le vis, cette période-là? Comment tu le ressens, cette histoire de Covid-19? Qu'est-ce que tu en penses? Et peut-être, au moment, le soir, vous savez, quand souvent les enfants, on les accompagne vers le lit, vers le coucher, vers l'endormissement, c'est souvent à ces moments-là qu'il y a des interrogations, parce que on n'est plus, quand on est enfant, c'est pareil pour les adultes, on n'est plus dans le faire, on n'est plus dans l'action, on est dans le moment où on va s'abandonner vers le sommeil, et les enfants, souvent, c'est à ce moment-là que leurs préoccupations, leurs inquiétudes viennent, et parfois jusqu'à les empêcher de s'endormir aisément.
Alors maintenant, nous allons voir quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui sont inquiètes par cette crise actuelle.
Alors ce que je crois, c'est ce que nous disions tout à l'heure, cette Covid-19 et cette crise-là nous a confrontés à une déstabilisation, des anxiétés, des angoisses, parce que nous avons eu le sentiment de perdre de la maîtrise et du contrôle sur notre vie, notre quotidien. Tout a été un peu chamboulé, et je crois, moi, que on peut sûrement arriver à le vivre mieux, cette anxiété, d'une part en l'accueillant, en l'admettant, en ayant une certaine bienveillance pour soi-même. C'est normal, à mon sens, que l'on soit si affecté par ce machin, cette Covid-19 et cette crise sanitaire.
Donc premièrement, on l'accepte.
C'est ça, on l'accepte, on l'admet, on est bienveillant avec soi-même. Après, je crois, moi, que l'idée, c'est sûrement de récupérer une forme de contrôle et de puissance, entre guillemets, par rapport à ce virus, cette crise sanitaire. Et je dirais, moi, que l'une des clés, selon moi, c'est de prendre du temps, pour soi. Prendre du temps pour l'autre, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais prendre du temps pour soi.
Vous pouvez nous donner des exemples très concrets?
Vous savez, je crois, moi, qu'il est essentiel dans nos vies qui vont très vite, et particulièrement avec cette crise sanitaire que nous gérons, d'appuyer sur pause, comme quand j'étais jeune, moi, puisque je suis un ancien, sur le magnétophone, on appuyait sur pause. Là, ça me paraît important d'appuyer sur pause, de débrancher avec nos préoccupations, nos inquiétudes, notre angoisse par rapport à ce Covid-19, et que ce soit en faisant de la méditation. J'entends de plus en plus de gens qui prennent un temps de méditation. Parfois, il y a des applications que je trouve assez géniales, comme Petit Bambou, par exemple, dont j'entends parler souvent. Ça peut être la prière. Mais pour ma part, je me suis remis à lire aussi, lire davantage, être moins dans les écrans et prendre le temps de la lecture. Mais ça peut être des pratiques sportives, se reconnecter avec son corps et goûter, apprécier ce corps merveilleux qui fonctionne, les sensations avec le corps. D'autres, c'est la marche dans la nature, ressentir le vent sur mes joues, la fraîcheur du petit matin, les oiseaux qui chantent, sentir l'odeur de la pluie quand il pleut, etc. Toutes ces sensations qui nous connectent avec notre corps et qui connectent notre corps avec la nature. Et puis j'ai entendu des gens, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un hôpital psychiatrique et des infirmières qui avaient connu des formes de burn-out dans cette période-là. L'une m'a dit, tu sais, je me suis remis au point de croix. L'autre m'a dit, je me suis remis au tricot. Ça paraît un peu des trucs de grand-mère, mais n'empêche qu'elle me disait, tu sais, pendant que je compte mes points en faisant du point de croix, pendant que je suis concentré sur mon tricot, mes mains, j'oublie tout le reste. Et ça me paraît important.
Alors, pour terminer, merci pour ces conseils. Prendre soin de l'autre, il vous reste 30 secondes, Bernard Coulot, pardon.
Oui, je pense qu'en couple aussi, ça peut être, pourquoi pas, cette crise, une opportunité pour essayer de se retrouver à deux, de se retrouver en couple. Et je me rappelle d'un prêtre qui s'appelle, je crois, le père Caffarel, qui parlait du devoir de s'asseoir. Et je me dis, moi, peut-être que le terme de devoir nous inquiète un peu, mais l'idée du temps pour s'asseoir à deux et penser à deux. Comment toi tu vis cela? Comment t'as vécu cette semaine? Qu'est-ce qui a été bon? Qu'est-ce qui a été difficile? S'écouter et partager ce temps à deux me paraît important.
Merci beaucoup, Bernard Coulot. Pardon pour ce temps qui est passé très très vite. Merci d'être venu quand même jusqu'à nous ce matin de Saint-Sulpice sur Tarn. Et vous nous avez, voilà, donné des clés pour traverser cette période angoissante. Merci.
Merci à vous.